CLV 24/7 présente 100% Baseball.
Et on se transporte maintenant au Kentucky, rejoindre notre ami Gabriel Morissette qui est là. Bonjour Gabriel, comment ça va?
Très bien,
et
toi?
Ça va bien, merci. Je suis content de te jaser. Écoute, Gabriel, tu fais le tour avec ta conjointe. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on est de plus en plus nombreux à le savoir. On va inviter les gens à aller voir ton site et à aller voir ton Twitter dans un moment, en conclusion tout à l'heure. Mais donc, le tour des... Tu fais le tour, je le disais, oui, des différents parcs du baseball majeur, faisant la promotion des expos. Là, tu te trouves au Kentucky en ce moment. Raconte-nous ce que tu as vécu depuis qu'on s'est parlé avant-hier.
Ouais, dans le fond, quand on s'est parlé, nous, on se dirigeait vers le U.S. Cellular Field de Chicago,
qui est
le stade des White Sox.
Voilà. Bon,
quand on pense à Chicago, la plupart des gens disent tout de suite à l'école, du Wrigley Field, tout ça. On va vous dire, on a vécu une expérience très plaisante à Chicago. Pourquoi? On a appris beaucoup sur leur stade. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'est que ça a été un des derniers stades qui a été construit avant la vague des stades néoclassiques, là, des années 90 et tout.
Ah, d'accord.
Et le fan avec qui on a parlé a été assez honnête pour dire, regarde, on s'est planté sur certaines choses quand on a construit le stade et la vague des stades néoclassiques ont pris les bonnes choses de ce stade-là en laissant de côté les mauvaises choses. Donc, nous, on s'est dit, c'est très intéressant de, il faut vraiment prendre exemple sur les autres pour dire, regarde, ça, ça marche pas.
Voilà.
Laisse faire, ça marche, on le prend.
OK. Quels seraient ces exemples de trucs qui fonctionnent moins maintenant? Parce que tu as raison de le mentionner, puis on t'a bien éclairé là-dessus. Les nouveaux stades ressemblent à des vieux stades, comme s'ils avaient été construits, mais avec les normes d'aujourd'hui. Mais au début du siècle dernier, ou de l'autre avant peut-être, c'est presque ça. Ce sont des petits bijoux, mais on a l'impression que c'est vieux, 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 puis dans le fond, c'est tout récent. Quels sont donc ces exemples de trucs qu'on aurait peut-être pu... ou qu'on aurait rapidement, oui, oublié ou relégué aux oubliettes si c'était à refaire là-bas?
Ben, en fait, un des plus gros exemples, c'est pour s'assurer que tout le monde ait une bonne vue partout dans le stade, pour pas qu'il y ait de mauvais sièges, ils sont retrouvés avec des estrades, le grandstand, le balcon supérieur, il était beaucoup trop haut. Donc, on disait que même les premiers bancs du grandstand était plus haut que les derniers du stade avant, qui était le vieux Comiskey Park.
Okay.
Et ça, ce qu'ils ont fait, ben ils ont enlevé, ils ont réduit les bancs, ils ont baissé ça. Mais tout ça se fait à des coûts. Donc, le stade a été ouvert en 91 et j'ai regardé sur leur site Internet et ils font des rénovations quasiment à chaque 3 ans pour réparer ces erreurs. Donc, ça, c'est des coûts qu'on rajoute. C'est pas nécessairement ce qu'on veut vivre.
Tu vois, et c'est l'avantage ou le désavantage de ne pas avoir été le dernier à le construire, mais tu regardes les nouveaux stades au hockey, c'est la même chose. Tu te souviens peut-être qu'au Centre Bell, 96, à l'ouverture, Gabriel, moi je me rappelle très très bien que, ça fait pas si longtemps, ça va faire 20 ans bientôt, mais c'est comme si c'était hier après-midi. Je me souviens que les premiers commentaires des gens, c'était, il y en avait deux en particulier, des corridors étaient trop étroits et deux, on cherchait les toilettes. Donc, on est obligé d'agrandir par l'intérieur. On a fait des corridors plus larges, parce que tu te rappelles un peu. Et aussi, on a ajouté des salles de toilettes, parce qu'évidemment, je peux pas croire qu'on n'y a pas pensé. Mais en même temps, on se console, parce que tu sais qu'à Montréal, quand on a construit le métropolitain, apparemment qu'on a oublié de faire les sorties. Alors, on a fait les sorties, mais on oublie de faire des entrées, quelque chose comme ça, l'inverse. Imagine-toi, on se dit, coudonc, ça a-tu été fait sur la drogue dure ou il s'est passé quelque chose? Mais, non, mais blague à part, c'était pour te faire sourire depuis le Kentucky. Mais, non, mais sérieusement, c'est certain que tu as des stades où c'est toujours au goût du jour, puis tu veux pas répéter les erreurs de ce qui s'est fait avant. Mais c'est vrai que ça marque 91, je me souviens très bien, parce que c'est à partir de là qu'on a vu les nouveaux vieux stades, si tu me permets l'expression. Puis c'est là que t'as
eu le nom, quand on cherche le style du stade, c'est néo-classique.
Néo-classique.
C'est le musée d'art, là, mais on parle bien de stade de baseball.
Ben écoute, c'est bon parce que le baseball, c'est une belle forme d'art aussi, donc ça va très, très bien avec ça. OK, donc à ce moment-là, tu as par la suite donc quitté Chicago. Ben raconte-nous peut-être d'abord, outre ce qu'on t'a dit sur le stade, des trucs à revisiter si c'était justement à refaire, etc. Comment t'as aimé l'ambiance là-bas pour ce match des White Sox, hein?
Bon, ben, qu'est-ce qu'on a vécu là? Différentes choses. Premièrement, on a apprécié que, en fait, ce qui s'est passé des White Sox au match, à la pause du match des Étoiles, l'organisation a regardé l'affiche et dit, ouais, je pense pas que c'est notre année pour aller en série et prendre loin. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des promotions. Nous, on est tombé sur ces promotions-là. Par exemple, ce qu'ils ont dit, c'est tous les lundis soirs, qu'il y a un match à la maison, ben, on va vous donner un t-shirt des White Sox qui va honorer un joueur ou un autre. Donc, ils ont décidé de pas dire, regarde, on va laisser faire, on efface le tableau l'an prochain. On dit non, on va récompenser les fans qui vont quand même venir au match.
Okay.
C'est pas parce
c'est
qu'on
bien.
Fait pas les séries qu'on peut pas offrir du bon baseball. Donc, ça a attiré des gens. Il y avait pas mal de monde qui attendait à l'ouverture des portes pour avoir leur chandail gratuit.
Et raconte-nous ce qu'il y a sur ton chandail. C'est-tu Frank Thomas? C'est qui est sur ton chandail?
Je vais vous dire, on l'a même pas regardé. On l'a même pas regardé. On l'a pris, on l'a mis dans notre sac. Je l'ai pas regardé.
Est-ce que tu l'as près de toi? L'as-tu près de toi? Tu veux-tu découvrir ça en même temps que nous?
Je pense que si je ne m'abuse, ben, parce qu'on va dire, je vais jaser ça en même temps.
Oui.
Ce que je me dirais, c'est que les White Sox s'appuient beaucoup sur leur série mondiale de 2005 pour faire leur promotion et tout.
Je comprends.
Juste un exemple, il y a deux bancs qui sont dans le stade qui sont bleus alors que tous les autres sont verts.
OK.
Ces deux bancs-là représentent deux coups de circuit qui sont tombés dans la série mondiale de 2005 qui ont fortement aidé à la victoire, je pense que c'était contre les Royals de Kansas.
Ah, imagine-toi, ça c'est marquant parce que les générations à venir, ou même les jeunes et moins jeunes, qui vont au stade là-bas comme tu l'as fait avec ta conjointe avant-hier, ben là, ils sont conscients que c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Quand les bancs sont d'autres couleurs, on a fait ça au stade olympique, etc. également, donc je pense qu'on fait ça un petit peu partout. Et là, surtout quand on remporte la série mondiale, donc celle de 2005, c'est ça. Alors, c'est assez intéressant. Donc, si t'as le chandail pas loin, moi, je suis curieux de savoir ce qu'il y a sur ce chandail.
J'ai trouvé c'est Paul Konerko. Qui est, je crois, d'ailleurs, un de ceux qui a frappé ces coups de circuit-là. Je me mélange peut-être, là, mais c'est Paul Konerko. C'est un beau chandail écrit « Thank you, Paul »,
bon.
Avec une photo et son numéro dessus. Non, c'est un beau gage de dire où il y a d'autres équipes qui font ça. Quand l'équipe va pas bien, ils baissent le prix des billets ou ils offrent le stationnement gratuit, des choses comme ça. Tu sais, c'est 162 games. C'est dur vraiment d'aller chercher des gens pour tous ces matchs-là. L'équipe va pas bien, ils sont pas dans la course. Fait qu'on comprend qu'il faut travailler pour ça. Ça prend un bon équipe marketing.
T'as tout à fait raison. Tu étais relativement jeune quand les Expos ont quitté. Ça va faire 10 ans hein, cette année. Puis, mais c'est certain que... En fait, l'an prochain, en 2004, il nous quittait. Donc, l'an prochain, 2014, si mon calcul est bon, c'est ça, 2014, en vue de la saison 2015, c'était la fin. On apprenait le décès des Expos là, ces semaines-ci ou presque. Et voilà que je me souviens qu'à ce moment-là, tu sais, on avait beau critiquer l'organisation en disant « Vous n'êtes pas imaginatif, il n'y a pas beaucoup. » Moi, j'étais de ceux-là en même temps. Je me disais « Pourquoi faites des promotions, etc. » Mais tu viens de toucher un bon point, Gabriel. C'est excessivement difficile d'être justement imaginatif, d'être en avant de son temps, puis de penser à des promotions comme ça. Mais probablement que la meilleure façon, plus facile à dire qu'à faire, tu vas me dire, mais la meilleure façon, c'est justement, sans vivre dans le passé, mais quand même relater des points positifs, prestigieux, attachés à l'organisation, puis de le faire comme ça. Puis ça, je t'ai demandé, puis je te remercie de t'être prêté au jeu, d'ouvrir ce chandail devant tes yeux, pour nous dire ce qu'il y avait. Alors, c'est un bel exemple aussi. On a reculé de quelques années pour dire, regarde, salut, Paul, bravo, merci pour ce que tu as fait. C'est tout à fait fantastique. Par la suite, donc là, vous êtes en ce moment, tu me disais tout à l'heure d'entrée de jeu au Kentucky. Parle-moi du chemin parcouru depuis.
Pas trop compliqué. En fait, pourquoi on va au Kentucky, c'est on descendait vers Saint-Louis dans notre horaire.
Okay.
Mais dans le Kentucky, à Louisville, il y a la fameuse usine de Louisville Slugger. Et qui fabrique les bâtons de baseball.
Oui.
Et on a décidé qu'on allait aller y faire un tour, aller visiter l'usine, parce qu'il y a une visite qui se donne là-bas.
Ah, que c'est fantastique. Puis j'imagine que tu vas prendre des belles photos pour ton compte Twitter, là.
Oui, et oui, c'est sûr. Si on peut trouver du réseau pour pouvoir les mettre en ligne, c'est sûr qu'on va faire ça.
Oui, effectivement.
Mais oui, on va faire ça demain. Et on peut dire que on se retrouve dans le Kentucky. Hier, on s'est promené un peu et tout. On a parlé avec des gens. On peut vous dire que les gens sont très gentils. C'est pas des endroits où il y a des grosses villes de baseball. On compare Kentucky, Tennessee. C'est deux endroits qu'on a beaucoup appréciés.
Okay.
Puis oui, il y a du baseball mineur. Les gens reconnaissent sur notre véhicule quand ils voient ce qu'on a écrit, Fenway Park, Dodger Stadium, ils nous parlent. Okay. Les gens sont très accueillants ici.
Ah, ben écoute, c'est fantastique. Puis c'est vrai, aux États-Unis, dans bien des coins, là, on dira ce qu'on voudra, mais c'est un peuple accueillant. C'est 50 peuples différents, diront certains. Hein, ça fonctionne par état. Mais et dans leur état naturel, ils sont généralement très, 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 très courtois, très, très sympathiques. Donc, ça ne me surprend pas du tout. Qu'est-ce qui vous attend, ta conjointe et toi, Gabriel, là, pour les prochaines heures?
C'est un gros orage qui annonce. Donc, on est dans un camping et, comme je t'ai dit plus tôt, on vient de se faire proposer parce qu'on est on dort dans des campings. On va vous dire, à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de véhicules récréatifs.
Oui.
Donc, les gens, ils s'inquiètent pas pour la tempête. Mais nous, les employés ont vu qu'on dormait dans le véhicule. Et ils nous ont proposé d'avoir un upgrade vers une cabine pour quelques dollars de plus pour pas qu'on passe la nuit inquiété par la pluie et tout.
Ben oui, justement, parce que c'est pas toujours confortable. Mais tu me disais, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je crois que c'est la semaine dernière, que vous faites pas ça à chaque nuit, mais parce qu'on a les pattes engourdies quand on dort comme ça dans l'auto, faut pas faire ça à chaque nuit pour plusieurs nuits consécutives. Il y a quand même du répit, peut-être un petit motel ou hôtel de temps en temps, ou sinon l'occasion que tu auras cette nuit.
Ouais, c'est surtout aussi se laver à un moment. Là.
Ben bon, oui.
On dira ce qu'on veut sur les genres masculins et féminins, mais moi et ma copine, moi peut-être que je peux prendre quelques jours de plus sans une douche parce que c'est ça, mais ma copine, des fois les dents se regardent puis on se trouve pas très attirant. Donc je pense que c'est le temps de prendre une douche.
C'est ça. Ah ben oui, regarde, c'est la moindre des choses. Je me sens tout à fait d'accord avec toi. Moi, je m'imagine mal de même passer une journée. Mais quand même, écoute, là, vous êtes en mission. Là, c'est autre chose, mais il y a moyen de moyenner, comme disaient nos aïeux. Alors, c'est intéressant. Écoute, si on avait la possibilité de se reparler, nous, vendredi, autour de 16h30, je lance ça comme ça, si jamais c'est possible. Sinon, on communique par le...
Ça va me faire du plaisir de vous parler. Puis d'ici vendredi, ouais, puis on va pouvoir vous parler... Parce que là, on parle vite, mais je voulais mentionner une expérience que j'ai pas dit aux White Sox.
Oui.
Très rapidement.
OK, vas-y.
On était en 9e manche et les White Sox perdaient seulement par un point, donc ils étaient encore dans le match. Et là, il y a un appel à l'enclos des releveurs et il y a un joueur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, le releveur, qui s'en vient. Et les fans des White Sox autour de nous ont fait un espèce de signe de désespoir général, du genre, pas lui.
Oh non, pas lui!
Ouais, il y a eu des huées, les gens autour de nous, des insultes en disant il mérite même pas d'être dans du 3A, il est pas bon.
C'est pas fin.
Il y a des gens qui se sont levés, qui ont dit, regarde, c'est sûr qu'on va s'en aller parce que c'est sûr qu'on perd le match chez lui en bas.
Et finalement, c'est un match que les White Sox ont gagné.
C'est ça qui est drôle, c'est que tout de suite après, finalement, le lanceur a fait le travail. Hey. Il y a eu un gros double jeu. Après, une fin de 9e, deux retraits, deux prises, coup de circuit solo, égalité. On s'en va en prolongation. On se retrouve en 12e manche. Et le même frappeur qui avait frappé le coup de circuit pour égalité, encore là, coup de circuit solo. À la même place, au champ gauche, victoire en walk-off. Et on n'était plus beaucoup dans le stade, mais ceux qui étaient là étaient bien excités.
Imagine-toi, ça donne du mérite justement aux gens comme toi, ta conjointe, puis ceux qui sont restés, d'avoir attendu. On ne sait jamais, on le vit dans tous les sports professionnels, même à d'autres niveaux aussi. Fallait s'accrocher. Et lui, le principal intéressé, le lanceur dont tu fais allusion, a dû dire, voilà pour vous autres, voilà pour ceux qui pensaient que j'allais pas réussir. Tu sais, des fois, c'est assez hein, pour changer la vapeur de bord, comme on sait. Alors, ça l'a peut-être motivé, au contraire.
Mais c'était très étonnant parce qu'on a déjà entendu des fans parler tel gars, ça fait 4 games qu'il n'a pas frappé, il serait temps qu'il fasse de quoi. Mais lui, ça avait l'air très général, du genre... Un peu comme si c'est le deuxième gardien du Canadien, on savait qu'il était vraiment pas bon. Puis là, quand Michel Therrien dit « Ah, ben c'était le gardien qui va être ce soir », puis tout le monde faisait « Ah, ça vaut même pas la peine de regarder ». Ça semblait à ça.
Ben bon, chantait-il. Ben écoute, mon cher Gabriel, c'est toujours un bonheur. J'ai déjà hâte de te reparler vendredi prochain. En attendant, soyez prudents, bonne douche et bon repos ce soir.
Un jour, merci beaucoup et on se parle vendredi.
Merci Gab, à vendredi. Bye bye, cher ami.